liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 14, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, la semaine dernière, c'était fric. Qu'est-ce qu'on a cette semaine?
Cette semaine, c'est politique.
Avec un peu autre chose quand même.
Oui, on va saupoudrer. Donc, on va parler d'exécutif, législatif, municipal et un petit peu de local en Tunisie. Mais on va aussi parler de Microsoft, ventes liées et interopérabilité et la DOPI qu'on adore.
Marianne 2, inouï, Marine Le Pen défend le droit d'asile numérique. Un article de Tefi Adriamanamala, à peu près.
C'était pas facile. Donc, qu'est-ce que vient faire Marine Le Pen dans la revue de presse de l'April?
Bah, c'est à toi de te justifier, c'est toi qui fais la sélection des articles.
Ah mince, ça s'est vu.
Oui.
Mais c'est un super article.
Donc oui, Marine Le Pen prend des positions super tranchées sur la question des libertés sur Internet.
Et même libertaire d'après le journaliste.
Tout à fait. Soutient même les Anonymous.
Directement, carrément, le retrait d'ACTA.
Se prononce également contre toute forme de censure, y compris la censure des sites pornographiques.
Oui, alors si je comprends bien l'article, il semblerait que les cadres du parti n'étaient peut-être pas tout à fait en faveur de tout cela. C'est elle qui le met en avant. Moi, je me demande si c'est un peu de calcul politique, de l'intelligence et une bonne reprise de thèmes porteurs.
C'est une chose qui est avancée dans l'article et qui est très intéressante pour le coup, c'est de dire que Marine Le Pen est boudée par les lobbies, parce que voilà, c'est pas très fréquentable et ce genre de choses, et qu'en conséquence, elle est finalement très libre là-dessus, puis que ça lui permet de se démarquer du reste des candidats sur des choses qui évidemment touchent le public. Donc au-delà de la question du FN, où effectivement on peut se dire que c'est pas nécessairement une valeur fondamentale du FN, puisque les cadres, eux, étaient plutôt dans l'idée de censurer, bloquer, etc., ça montre le côté complètement, enfin, qui tue le débat et qui en gros, est en train d'étouffer toutes ces questions et qui nous touche directement sur ces questions de lobby. On se souvient, c'était il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, on avait cité cette lettre d'un lobbyiste qui est arrivé directement à François Hollande sans passer par son cabinet de campagne et qui disait surtout pas de licence globale, faut pas ça, etc.
Oui, lettre qui avait été envoyée par un producteur de musique, donc avait complètement ses intérêts.
De film, dans le cinéma, mais peu importe. Dans les candidats qui prennent des positions tranchées sur cette question de liberté numérique, il y en a très très peu. Il y a Dupont-Aignan et...
Les Verts, généralement.
Et Eva Joly, qui effectivement, sur ACTA notamment, a pris des positions tranchées, mais au final... Donc,
il me semble que le front de gauche aussi était assez en faveur de pas mal de libertés, mais pas toutes, ou pas toutes dans le même sens.
C'est pas aussi clair, ma connaissance. En tout cas, voilà, donc l'article est bien fait, c'est pas juste une constatation des positions du Front National, il y a toute cette partie d'analyse, donc ça vaut le coup d'être lu.
Et puis c'est amusant, parce que ça met en exergue quelques problèmes dans la vie politique. Cette force des lobbies sur les hommes politiques est vraiment dangereuse, risquée, bizarre, donc c'est assez amusant de le voir ressortir sous cette forme-là.
Mediapart, défendre la liberté à l'ère numérique, par Lionel Allorge. Pour ceux qui ont raté le truc, Lionel Allorge est notre nouveau président de l'April, donc
ouais.
C'est une publication, une lettre aux candidats, puisqu'en fait nous sommes dans notre campagne candidat.fr, campagne qu'on mène depuis de nombreuses années à presque toutes les élections, consistant à poser des questions et demander aux candidats de s'engager autour du logiciel libre.
Alors il y a une liste de thèmes, juste pour le rappel, c'est brevets, éducation internationale, DRM, consommation, interopérabilité, e-administration, accessibilité, économie et recherche. Beaucoup de questions et des réponses qui sont attendues.
Pas des masses de réponses pour le coup, puisque Dupont-Aignan encore lui a répondu, mais pour le moment c'est le seul. Et premier tour approche à grands pas, donc ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Et c'est une chose qui est un peu surprise, c'est-à-dire qu'il y a un an, on imaginait que le numérique avec Adopi, etc., allait prendre beaucoup de place dans la campagne, et c'est pas le cas.
Oui, peut-être pas assez porteur, peut-être que le digital, le numérique, internet, les candidats, ça ne les intéresse pas, ou voire même ils comprennent pas tous les enjeux.
Voilà, c'est tellement plus simple de troller sur le halal. Aller lire ça, ça fait un tour d'horizon des enjeux et des sujets qui nous intéressent.
Oui, je rappellerai, c'est que l'UMP est beaucoup en faveur des lois qui sont passées, forcément, et que le Parti Socialiste, François Hollande et ses conseillers ne sont pas forcément toujours en défaveur de manière flagrante et visible, et son assistante, non, sa conseillère Fleur Pellerin, qu'on avait rencontrée, on ne l'entend plus beaucoup en ce moment, ce qui est un peu dommage. On l'avait rencontrée à une soirée candidat.fr, donc c'est pas au nom de la revue de presse, c'était plutôt au nom de l'April. Donc elle avait des positions assez intéressantes, mais qui ne transparaissent pas dans ce que Hollande dit sur la A2P, c'est un peu dommage.
L'usine nouvelle, Microsoft, 17e plus large contributeur du noyau de Linux, un article de Christophe Guim.
Alors là, c'est pas l'anecdote ou juste la petite anecdote, c'est la chose amusante et intéressante, c'est que Microsoft contribue de manière assez massive au noyau Linux, au point qu'il est le 17e plus gros contributeur, je crois que c'est sur les 3 derniers mois ou quelque chose comme ça.
Et oui, tout à fait, donc on en avait déjà parlé, hein. Microsoft a fait un tournant open source, au sens open source, il y a déjà quelques temps en disant « Oh, mais nous on aime bien ça maintenant tout ça ». Il est rappelé dans l'article qu'à une époque, Microsoft disait que Linux était le cancer de l'informatique, et qu'aujourd'hui, ben, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, mais bon, ça reste quand même assez pragmatique et surtout dans leur intérêt.
Oui, alors c'est pas de l'interopérabilité, c'est de la compatibilité, on me faisait remarquer. C'est le fait que les logiciels de Microsoft pourront plus facilement travailler avec le noyau Linux, notamment virtualisation, cloud computing, grosse bécane, petite bécane, pas mal de problématiques qui sont là-dessus.
Oui, c'est des choses qu'on disait la semaine dernière, et Microsoft est complètement à la ramasse sur cette part-là. Il y avait un article qui citait la part de marché du logiciel libre sur toutes ces applications, elle est énorme.
Donc là, il semblerait que c'est très stratégique, hein. Ça c'est ce que fait remarquer Jonathan Leloup, qui est un des gars de Alterway.
Donc, et qui est également administrateur de l'April, hein, qui est rentré cette année.
Encore un, donc vraiment bien, de bonnes choses à voir. Petite anecdote qui m'amuse, c'est que Le Figaro aussi reprend cette nouvelle, le fait que Microsoft est devenu un gros contributeur de Linux, et Le Figaro qui parle de logiciel libre, moi j'aime bien.
Ça
donc,
arrive pas souvent.
Ça arrive pas assez souvent, j'aimerais bien qu'on les voit arriver un peu plus fréquemment, ce serait pas mal.
Le monde informatique vante les PCOS, la justice condamne un constructeur pour pratique déloyale, par Rolex News.
Donc ça c'est une des grosses nouvelles de la semaine, beaucoup d'articles, beaucoup de magazines, de journaux qui en parlent, donc là j'ai remonté le monde informatique, il y en avait d'autres. Donc en gros il y a une décision de justice qui est tombée, et qui est assez importante, qui est même très importante, parce que là elle prend pas le truc par des pincettes, elle parle de vente liée, voire même de pratique déloyale, c'est-à-dire quand vous achetez un ordinateur, vous l'achetez vraisemblablement avec du Microsoft dessus, et vous n'avez pas vraiment le choix, même si, soi-disant, il y a une licence qu'on accepte ou qu'on refuse, non, vous l'avez, vous la payez, et pour ne vous la faire rembourser, c'est la croix, la bannière, voire même, c'est quasiment impossible.
Alors, on connaît ce genre d'histoire, hein. Donc il s'agissait d'un ordinateur acheté en 2009, un ordinateur Samsung, équipé de Windows XP, bien sûr. Et donc en demandant le remboursement, on lui a dit bah, « Envoyez la machine à vos frais. »
Ah, c'est super pratique.
Voilà, on vous remboursera 60 euros et bah, vous repayez aussi le trajet retour de la machine. Donc forcément, à la fin, ça laisse pas grand-chose. C'est une décision qui est d'une cour de proximité, hein, donc c'est pas un tribunal encore très important. En revanche, elle a donc d'une part donné 90 euros de dédommagement pour le remboursement de Windows, ce qui est un petit peu plus dans les tarifs. Et octroyer également 500 euros de dommages et intérêts.
Oui, parce que quand même, tout ce temps, cette énergie pour se faire rembourser quelque chose qu'à la base on n'a pas forcément voulu acheter, c'est un peu rageant. Et moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment ça, c'est les termes utilisés. Quelques articles qui parlaient même de vente forcée, ce qui est beaucoup plus fort que de la vente liée. Et puis, alors, ce terme de déloyal, pratique déloyale, c'est quelque chose d'assez
intéressant. La phrase exacte, c'est déloyal en toutes circonstances à raison de son caractère agressif, qui n'est pas rien.
Donc si vous voulez vous faire rembourser, allez voir sur racketiciel.info, il me semble. Il y a la FUL notamment qui est pas mal derrière, il y a des gens très pointus qui connaissent bien cette problématique. Et puis c'est rageant quoi, on achète un ordinateur, on n'a pas envie nécessairement de payer sa taxe Microsoft, et c'est pas facile.
Le point, VLC saisit la Adopi pour ouvrir les verrous des Blu-ray. Un article de Guéric Poncet.
Alors VLC, c'est lecteur vidéo qui est utilisé dans pas mal d'endroits, y compris des Freebox par exemple.
Tout à fait, un très beau logiciel libre donc, qui a été initié par une grande école d'ingénieurs français, dont j'oublie le nom parce que j'y connais rien.
Je sais plus non plus, mais que c'est des gens vraiment pas mal et qu'on fait un très bon logiciel.
Voilà, donc très efficace, très léger, que vous utilisez sans doute, hein, il fait partie des logiciels libres les plus utilisés, les plus connus. Et forcément, le Blu-ray, c'est verrouillé, c'est bloqué par des DRM, donc ça n'est pas lisible sur du logiciel libre.
Et non, enfin en tout cas, c'est pas lisible légalement, parce que si pour lire un logiciel, vous l'insérez dans votre ordinateur, vous lancez le VLC par exemple, la VLC doit lire quelque chose qui est crypté, qui est chiffré, et donc il faut qu'il contourne les mesures techniques de protection, et ces mesures techniques de protection, elles sont protégées par la loi, vous n'avez pas le droit légalement en France de les contourner, c'est interdit. Et il y a des peines qui sont assez costauds derrière. Et donc là, il y a VLC qui remonte cette interdiction et qui dit oui, mais au nom de l'interopérabilité, le fait qu'on puisse lire ces DVD, ces Blu-ray, malgré les mesures de protection, au nom de l'interopérabilité, comment je m'y prends? Et donc, il pose une question à l'autorité en question.
Et oui, c'était une des petites mines qui avait été laissée dans ce fiasco, ce désastre qui était Adopi. Il y a quand même ce petit machin qui était, ok, bon, interdit de ceci, cela. Toutefois, pour des raisons d'interopérabilité, on pourra, etc. Et du coup, ça casse complètement la dynamique des DRM parce que les inquiétudes du consortium Blu-ray sont finalement très fondées par rapport à leur logique à eux. C'est qu'à partir du moment où on a les moyens techniques pour assurer l'interopérabilité de contourner un DRM dans un logiciel libre, des gens qui voudraient enfreindre la loi pour contourner à tour de bras ont les moyens de le faire. Ce sera publié.
Oui, parce que libre, forcément, vous avez accès au code source. Et donc là, si vous protégez d'une manière ou d'une autre par de l'obscurité, bah, le libre met la transparence en avant. Donc là, vous extrayez les capacités de protection et c'est MTP, la mesure technique de protection. Donc ça les rend à peu près caduques. Donc c'est amusant parce qu'il y a vraiment un gros conflit. Qu'est-ce que va répondre la Adopi ?
Alors, chose importante aussi que je voulais souligner, c'est que Jean-Baptiste Kempf de VLC précise que leur démarche est légale, eux ne sont pas dans l'illégalité, et qu'ils l'ont fait de façon pas tout à fait cadrée par la loi avec les DVD, que personne n'est jamais venu leur chercher des poux dans la tête, puisque c'est le même principe sur les DVD. Aujourd'hui encore, lire un DVD sous un GNU Linux est un acte illégal.
On attend la réponse avec impatience.
Alors, le trait d'union, le logiciel libre à la rescousse des élections municipales, un article de Christian Chaloux. Donc ça se passe au Québec.
Voilà, donc là c'est sur un autre niveau, donc élections municipales et tout ce qui concerne l'informatique. Et ce qui est particulièrement amusant, donc c'est cette idée, on offre des logiciels libres et on construit des logiciels libres. Donc, mais il y a derrière une optique qui est vraiment intéressante, qui m'amuse beaucoup, c'est le fait que ces outils, une fois qu'ils seront mis à disponibilité, ils éviteront les obligations d'un retour d'ascenseur qui viennent après les élections, quand un logiciel propriétaire vous a été mis à disposition par exemple. Donc il sera possible de le faire de la politique municipale propre. Donc ça, c'est un des responsables qui met ça en avant. Donc en gros, vous utilisez du logiciel libre, ça vous évite d'être à la merci d'un vendeur de logiciels propriétaires, d'une entreprise qui, même si elle vous l'a donné gratuitement à un moment donné, eh bien c'est pas forcément qu'il n'y a pas d'attache et de coûts cachés. Donc il faudra peut-être rembourser et repayer derrière. Là, vous pouvez être propre, vous pouvez être tranquille, vous êtes débarrassé de ce lien.
La démarche est très intéressante. Webdo, conférence nationale sur les logiciels libres 2012, bilan mitigé pour les communautés, un article de Melek Jebnoun.
Donc là, c'est en Tunisie.
Et oui, et donc le constat de l'auteur est plutôt inquiétant. Alors l'article est intéressant parce que il fait vraiment un panorama de la situation et de tout ce qui s'est passé en Tunisie sur la question du logiciel libre.
Oui, on rappellera que Microsoft était très très implanté en Tunisie avec Ben Ali et son gouvernement.
Et bah, sa constatation, on va pas s'étendre là-dessus, c'est que la dernière grande rencontre du logiciel libre en Tunisie a été, selon lui, un grand festival de politique et de politiciens se faisant mousser, etc. Il y a même un représentant du Premier ministre français qui était là, qui n'a absolument pas parlé de logiciel libre. Donc ce machin, selon lui, a raté sa cible, et c'est bien dommage.
Oui, on espère qu'ils arriveront à monter quelque chose comme un FOSDEM un jour, mais en tout cas, c'est pas le cas pour l'instant.
Numérama, le parti pirate français lance son site de campagne par Guillaume Champeau.
On a parlé du parti pirate, non, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a parlé des jeunes qui veulent participer aux élections et qui candidatent notamment. On a parlé d'un jeune de 19 ans dans l'Essonne il y a 2-3 semaines. Et là, quelque part, c'est un petit peu ce qui est mis en avant par le parti pirate. Donc le parti pirate, c'est un parti particulièrement jeune et qui cherche des élus.
Tout à fait, en France. Alors ce qui est intéressant avec ce parti, c'est que le nom déjà parti pirate, il est repris dans plusieurs pays, en Allemagne,
Scandinave, en Suède ou Norvège, voilà. Et même mieux que repris, ils ont des élus, ils ont des parlementaires.
Eux ont des élus, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette identité parti pirate qui est partagée, donc ce côté européen qui est vraiment très intéressant. En France, le parti est négligeable, il y a extrêmement peu d'activités, etc. Bon, ils ont travaillé à préparer les législatives, et sur un programme complet, ce qui aujourd'hui est très intéressant pour la France, hein, parce qu'on a toujours eu des doutes sur le parti pirate, en disant est-ce que c'est juste de l'opportunisme. On avait le sentiment que ça manquait un peu de métier par rapport à la politique et tout ça, et de cohérence. Donc là, manifestement, un gros travail était fait. En tout cas, ils ont besoin de candidats qui se présenteraient sous leur bannière.
Voilà, et ils font un appel. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez du temps et de l'énergie, et puis que vous connaissez un minimum les questions du numérique, c'est peut-être quelque chose à aller voir.
Ils ont un site de campagne que moi je vais aller voir, parce que je ne l'ai pas encore fait. Et je suis curieux de voir ce qu'ils ont sorti dans leur programme.
Bon, mais sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut Divergence.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.